Et c'est la machine qui fait rêver les informaticiens et les physiciens du monde entier, l'invention, dit-on, la plus folle de tous les temps. Imaginez un super ordinateur capable d'utiliser les propriétés quantiques de la matière pour exécuter des calculs démesurés en développant une puissance phénoménale par rapport aux ordinateurs classiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, l'ordinateur quantique est au cœur de tous les fantasmes. Science-fiction ou déjà réalité, c'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré avec mes invités. J'attends vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Un virus géant doté d'un système immunitaire, c'est une découverte qui est aujourd'hui à la une de la science. Catherine Decopey, bonjour.
Bonjour, c'est une équipe de chercheurs français qui vient de mettre en évidence cette capacité d'un virus géant à se défendre contre un autre virus. Une découverte qui nous en apprend encore un peu plus sur ces objets biologiques, pas comme les autres.
Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy en partenariat avec le cahier Science et Médecine du Monde. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par François Mercier. Avec Estelle Honora.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le rêve de l'ordinateur quantique, c'est donc aujourd'hui le dossier de l'émission. Mes invités pour nous parler de cette machine fabuleuse, Pascal Sennelard, Antoine Broweis et Benoît Valiron. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pascal Sennelard, l'ordinateur quantique, alors c'est dans le domaine de la fiction ou plus tout à fait?
Je pense qu'on sort de la fiction. Clairement, il a déjà été vendu, il s'appelle D-Wave.
Ah oui, donc ça y est.
Qu'il soit vraiment quantique, c'est encore une vraie question. Mais dans les laboratoires, on commence à voir des petits ordinateurs quantiques, pas petits par la taille,
oui, c'est ça.
Mais petits parce qu'ils savent faire pour l'instant. Ouais. Mais je pense qu'on s'approche de plus en plus vers quelque chose de concret et les progrès sont très spectaculaires.
Antoine Broweis, qu'est-ce qui fait encore figure d'obstacle justement pour la création d'un véritable ordinateur quantique?
Ben ça, on aimerait bien le savoir. Il y a deux types d'obstacles à mon avis. Les premiers obstacles sont les obstacles technologiques. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de défis à relever pour arriver à maîtriser, on va en parler, mais cette superposition quantique qui est à la base de l'ordinateur quantique. Ouais. Et alors la question peut aussi être plus fondamentale, il peut y avoir une vraie limite fondamentale qu'on n'a pas encore atteinte, qui serait la physique quantique ne serait pas la théorie ultime, il y aurait quelque chose derrière, et au bout d'une certaine taille, d'un certain nombre d'atomes à manipuler, la physique quantique s'effondrerait. Et ça, on ne sait absolument pas la réponse aujourd'hui.
Et Benoît Valiron, qu'est-ce que va permettre de réaliser un tel ordinateur que les machines actuelles, évidemment, sont incapables de faire?
Donc si la physique quantique ne s'effondre pas lorsqu'on a suffisamment de mémoire quantique pour le faire, en théorie, l'idée c'est de pouvoir réaliser des algorithmes qui tournent beaucoup plus vite que les algorithmes classiques et donc de répondre à des questions que l'on n'est soit pas capable de répondre à l'heure actuelle, auxquelles on n'est pas capable de répondre à l'heure actuelle, ou alors qui prennent beaucoup trop de temps.
Voilà, donc tout ça va aller de plus en plus vite, c'est absolument vertigineux. On va se retrouver dans un instant pour tenter de percer les secrets de cet ordinateur quantique ensemble avec les messages des auditeurs. À la une de la science, aujourd'hui, une découverte de plus sur les virus géants, Catherine Decopey.
L'équipe du professeur Didier Raoult vient de démontrer comment un virus géant était capable de développer un véritable système de défense contre l'infection par un autre virus. Une découverte publiée dans la revue Nature il y a quelques jours, Mathieu.
Et le professeur Didier Raoult est en ligne avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes, un laboratoire de l'université Aix-Marseille, CNRS, IRD, INSERM. Cette découverte d'une sorte de système immunitaire concerne donc les virus géants. Didier Raoult, c'est votre équipe donc, qui a mis au jour ce type de virus au début des années 2000. Vous nous rappelez quand même en quelques mots de quoi il s'agit avant de rentrer dans votre découverte?
Si vous voulez, jusqu'au travail que l'on a fait sur le premier virus géant qui était mimivirus, la classification des virus était basée sur le fait qu'ils étaient trop petits pour être vus au microscope, ce qui était la définition qu'avait donnée Pasteur des microbes. Les microbes, c'est quelque chose qui est vu au microscope ordinaire. Et donc, tout ce qui était plus gros que ça, vu au microscope ordinaire, n'était pas considéré comme un virus. Et donc, ça a été une révolution de voir quelque chose qui apparaissait gros comme une bactérie était en réalité un virus. Et ce qu'on a montré petit à petit, c'est qu'il a tout un armement et une susceptibilité aux infections qui est la même que celle des autres microbes en réalité.
Alors Didier Raoult, l'objet de votre découverte concerne mimivirus, vous venez de le citer, donc le premier virus géant que votre équipe a mis au jour. Ce que vous avez trouvé aujourd'hui, c'est que mimivirus possède un système de défense contre un autre virus que vous avez baptisé Zamilon. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit-il.
Alors, dans la suite du travail qu'on a fait sur mimivirus, on a identifié qu'il y avait des virus, pour la première fois, qui infectaient, qui pouvaient rendre malades nos virus géants, qu'on a appelés les virophages, c'est-à-dire qui sont susceptibles de parasiter et d'empêcher la multiplication des virus. Parmi ces virophages, un de ceux qui ont été découverts s'appelle Zamilon, découvert par mon collaborateur Bernard Scola, s'appelle Zamilon, et ce virophage Zamilon n'est pas capable d'infecter tous les mimivirus. Il y a des groupes, tout un groupe de mimivirus qui n'est jamais infecté par ce virophage alors que les autres le sont.
Donc il résiste.
Donc il résiste. Donc ça veut dire que nous avons suspecté qu'il y avait soit, c'était mon hypothèse, qu'il y avait un mécanisme de résistance, soit l'hypothèse de Bernard, c'est qu'il n'avait pas le mécanisme qui permettait l'expression de ce virus. Donc c'était très amusant. On a fait une compétition interne pour voir comment les choses se passaient.
Et vous avez analysé des séquences génétiques de 60 génomes de mimivirus, c'est ça?
Exactement.
Ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps. Et puis il faut les avoir, les souches. Donc nous, on a une usine à production de souches de virus géants que dirige Bernard Lascola. Et donc on a regardé ça et on a un très bon bioinformaticien chez nous qui s'appelle Anthony Levasseur, qui nous a permis on a cherché à identifier la même chose qui est connu chez les bactéries, qui est la plus grande révolution biotechnologique de ces 15 dernières années, qui est l'existence de ces mécanismes de destruction des ennemis par cannibalisation des séquences de l'ennemi.
Donc, wow, ça fait peur. Donc,
est-ce que vous pouvez expliquer plus précisément
les bactéries, voilà. Et ce que nous on a démontré chez les virus pour la première fois, ce que font les bactéries, c'est qu'elles sont capables d'internaliser des séquences des virus, et maintenant on sait d'autres aliens, d'autres attaquants, d'autres séquences qui attaquent la bactérie, elles intègrent cette séquence et ensuite elles se servent de cette séquence comme d'un hameçon pour attirer les ennemis, et cette séquence est entourée d'enzymes qui découpent l'ennemi.
Donc, ah oui.
C'est un hameçon, vous voyez, avec des enzymes qui découpent l'ennemi autour.
Oui.
Et donc, nous, ce qu'on a trouvé dans le mimivirus qui résiste aux amylons, on a trouvé la séquence hameçon de amylons, et on a regardé ce qu'il y avait autour de cette séquence, et on a trouvé les enzymes qui permettent le découpage de amylons quand il essaie d'infecter mimivirus.
Et Didier Raoult, on ignorait jusqu'à maintenant qu'un virus géant, donc là en particulier, pouvait posséder un tel système de défense?
Ah non,
ou vous
oui,
le suspectiez?
Bien sûr. Donc si vous voulez, on est depuis maintenant une quinzaine d'années, vous voyez, on est étape par étape. D'abord, on a découvert les virus géants, on a montré qu'ils avaient autant de gènes et autant d'informations, autant de protéines que les bactéries de taille équivalente, ou les eucaryotes, ou les archées de taille équivalente, de tous les microbes de taille équivalente. Ensuite, on a montré que leur taille leur permettait d'être attaqués par des virus externes qui se nourrissaient de ces virus, qui se font multiplier, donc sont des parasites. C'est ça qu'on a appelé le virophage, c'était une autre étape. Et puis, la troisième étape, c'est les mécanismes de défense. Alors, tout ça, c'est théorisé par une très jolie théorie qui s'appelle la théorie de la reine rouge, qui est une grande théorie de l'évolution, qui est sortie des livres d'Alice au Pays des Merveilles, où la reine rouge court à côté d'Alice, et elle ne bouge, tout en courant très vite, elle ne bouge pas, et la reine rouge lui dit, il faut courir tout ce qu'on peut pour rester simplement à la même place. Et ça traduit le fait que dans la vie, il y a sans arrêt un combat à mener contre ceux qui sont autour pour rester à la même place. Et si on ne développe pas de nouvelles réponses aux nouvelles agressions, eh bien on disparaît, on recule. Voilà. Et les virus sont comme les autres.
Voilà. Didier Raoult, quelles pourraient être les perspectives thérapeutiques d'une telle découverte? Est-ce qu'on en est déjà à cette étape aujourd'hui?
On n'en est pas à cette étape, mais si je vous disais tout à l'heure, si CRISPR, qui est le même mécanisme, ou un mécanisme équivalent de défense chez les bactéries, est la plus grande révolution technologique depuis 10 ans, c'est parce que ce mécanisme qui permet donc de reconnaître une séquence et de la modifier est maintenant très utilisé pour toutes les cellules, et qu'on peut faire ça, y compris dans les cellules humaines, c'est-à-dire qu'on peut modifier les gènes de toutes les cellules que l'on veut grâce à ce système CRISPR des bactéries. Alors je ne sais pas si on arrivera à faire la même chose avec ce système de mimivir qui est l'équivalent chez les virus, mais en tout cas, les systèmes de défense des bactéries sont devenus l'outil le plus important de la biologie moderne actuelle qui permettent de faire, je sais que les gens n'aiment pas beaucoup les OGM, mais on pourra faire des humains OGM demain, on pourra enlever les gènes de susceptibilité à des maladies d'une manière relativement simple si ce mécanisme arrive à se généraliser. Donc c'est une très très grande révolution biologique.
Et alors sur la définition des virus, Didier Raoult, on est encore chamboulé là depuis cette découverte de système de défense ou pas?
Alors, si vous voulez, personne n'ose vraiment s'attaquer à la définition des virus, parce que les virus ont été définis au 19e siècle sur le fait qu'ils étaient petits et virulents. C'est comme ça qu'ils ont été encore en partie par Pasteur. Maintenant, ils sont pas tous petits, ils sont pas tous virulents, et donc, en réalité, je ne crois pas qu'il y ait un objet biologique que l'on puisse définir comme étant un virus. Donc je pense que la définition est fausse. Mais c'est difficile de changer une définition fausse. En particulier, Elvov, qui était un prix Nobel français, quand on lui demandait, on le poussait dans ses retranchements, mais on parle déjà de la fin des années 50, donc on sait qu'on n'arrive pas à les définir depuis la fin des années 50, disait, écoutez, un virus est un virus, ou un virus est ce sur quoi les virologues travaillent. Voilà.
Donc, merci beaucoup Didier Raoult, en tout cas, avec la découverte de ce premier système de défense, Mimivir, c'est comme ça que vous l'avez appelé, chez ce virus géant. Merci beaucoup, puis vous viendrez nous voir dans La Tête au Carré au mois d'avril, à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre en ce qui vous concerne. Merci beaucoup Didier Raoult, à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci Catherine Decopé, à demain pour une prochaine une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 23% des morts dans le monde seraient d'origine environnementale, c'est ce que publie l'OMS après avoir répertorié toutes les causes de décès liées à la pollution, accident sur les routes en mauvais état, consommation d'eau toxique, surexposition aux rayons du soleil, contact avec des substances chimiques, encore dérèglement climatique. Ce pourcentage de morts liées à l'environnement est plus faible que celui que les spécialistes avaient établi dans leur dernier bilan en 2002. Il s'élevait alors à 25%. Mais comme la population mondiale n'a cessé de croître, les chercheurs restent prudents. L'OMS conseille de réduire les émissions de CO2, la consommation de produits chimiques et d'imposer des interdictions de fumer. Utiliser des produits cosmétiques biologiques réduirait le niveau de produits chimiques toxiques dans le corps à partir de 3 jours. Des chercheurs américains ont demandé à des adolescentes d'utiliser des cosmétiques bio pour analyser les effets que peuvent avoir les perturbateurs endocriniens sur le corps. Des tests urinaires avant et après ces 3 jours leur ont permis de constater une baisse de 45% des niveaux de parabènes et une baisse de 36% du niveau de triclosan. En moyenne, les femmes utilisent 12 produits de beauté ou d'hygiène corporelle par jour, contre 6 pour les hommes. L'étude conclut qu'au quotidien, l'utilisation de produits biologiques réduirait significativement le risque de cancer, d'obésité ainsi que de troubles neurocomportementaux. Et puis c'est une première pour la sauvegarde des ânes domestiques et sauvages. Une collecte in vivo d'ovocytes d'ânesse vient d'être lancée par l'INRA. En France, 5 races d'ânes sur 7 sont en voie d'extinction. Les chercheurs ont donc décidé de récupérer des ovocytes et du sperme d'ânes pour développer des embryons in vitro et les cryoconserver. Pour la première fois, ils ont pu étudier la chronologie de maturation des ovocytes d'ânesse, à suivre l'étape de congélation des embryons et le transfert vers une ânesse porteuse. Allez, l'ordinateur quantique, c'est donc le dossier dans un instant de La Tête au Carré après Les Innocents et J'ai couru. Bon après-midi.
Un bref rappel historique. À la fin du XIXe siècle, la nécessité de la théorie quantique naît de l'incapacité admise de la physique dite classique à déchiffrer l'infiniment petit. Et c'est alors que Planck, pour la première fois, émet l'hypothèse de la discontinuité des échanges d'énergie, d'émission et d'absorption et de leur caractère proportionnel aux fréquences des énergies. Alors, vous avez ici la formulation dE égale nhv ou dE, les échanges d'énergie, d'émission, d'absorption, n, un entier, h, le fameux quantum d'action, on y reviendra, et v, la fréquence de la lumière. Voilà, pardon mille fois de revenir hein, sur des notions un petit peu élémentaires.
Voilà, ça c'est pour nos invités, pour les mettre dans le bain de notre discussion, pour mettre un petit peu de pression, pour essayer de vulgariser au mieux, et comme Alexandre Astier, la question quantique avec cet ordinateur entre rêve et réalité. C'est le dossier donc aujourd'hui de la Tête au Carré, hein, pour comprendre ce qu'est ou ce que sera cette machine que certains présentent comme l'invention la plus folle de tous les temps. Pascale Sennelard, vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de photonique et de nanostructure. En 2014, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS pour votre travail sur les boîtes quantiques. Antoine Brouwer, vous êtes physicien, directeur de recherche au laboratoire CNRS Charles Fabry, et vous êtes spécialiste de la physique quantique et de la manipulation des atomes par faisceau laser. Et puis Benoît Valiron, vous êtes informaticien, enseignant-chercheur à l'école centrale Supélec, attaché de recherche au laboratoire de Paris-Saclay. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de questions sur le site de la Tête au Carré, donc franceinter.fr, et le mot-clé l'attaque. Alors, programmer l'improgrammable, déchiffrer l'indéchiffrable, ce sont donc des promesses de l'ordinateur quantique, avec des capacités de calcul démesurée en perspective. Tout le monde en rêve, en tout cas c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est votre cas à vous tous, Pascale Sennelard?
Ah, je pense que pour faire le travail que nous faisons, il faut y croire un petit peu, oui, et avoir envie de le voir devenir réalité, avoir envie de le voir arriver dans notre quotidien.
Oui.
Je pense que...
Ça va vraiment bouleverser la vie de monsieur, madame, tout le monde, ou pas, Antoine Brouwer?
Ça, c'est pas encore complètement sûr. On cherche encore à quoi est-ce qu'il va bien pouvoir servir. Mais si vous voulez, beaucoup des pionniers de l'informatique ou d'autres technologies qui ont été inventées au cours de l'histoire de l'humanité, comme par exemple le laser, se demandaient un peu à quoi allait servir leur découverte. Donc on en est un peu là aussi. Donc simplement, en tant que physicien, on en rêve. On en rêve pour le degré de contrôle que ça vous donne sur des systèmes quantiques extrêmement petits, et pour toutes les implications conceptuelles que ça a sur la façon de comprendre ce que veut dire l'information, comprendre ce que c'est que cette dualité en corpuscule, comprendre ce que c'est ce monde quantique qui nous est si
donc
peu familier.
Il y a à la fois de la très belle recherche fondamentale, et puis des applications pleines de promesses quand même. On a les deux, finalement.
Tout à fait. Comme, encore une fois, comme l'histoire du faisceau laser, qui est une vraie découverte de laboratoire, on en discutera probablement plus tard. La question de que peut faire un ordinateur quantique, on a quelques réponses à ça. Ça permettrait, par exemple, Benoît vous en parlera mieux que moi, mais de pouvoir casser des codes de sécurité. Par exemple, sur Internet, quand vous rentrez votre numéro de carte bleue, il y a un protocole. Ce protocole est sécurisé. Si on avait un ordinateur quantique, on peut le rendre non sécurisé. Donc, il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux qui vont au-delà.
Ou au contraire, renforcer la sécurité.
Ou au contraire, renforcer la sécurité pour d'autres types de technologies.
C'est ça. Pascale Sennelard.
Oui, c'est juste le complément de ce que vient d'écrire Antoine. C'est si jamais on arrive à fabriquer l'ordinateur quantique, il va falloir rendre les systèmes de cryptage plus efficace. Et donc, il y a aussi en parallèle le domaine de la cryptographie quantique qui se développe.
Benoît Valiron, est-ce qu'on est déjà dans l'ère du quantique, dans le domaine de l'informatique?
Alors, du point de vue de la NSA, on y est déjà, puisque la NSA a décidé d'arrêter de financer tout ce qui n'était pas, au niveau cryptographie, tout ce qui était pré-quantique. Donc, il ne s'intéresse plus qu'au post-quantique.
Ouais.
Donc, de ce point de vue, on y est. Du point de vue de l'informatique, du développement des langages, on commence à y être. On part avec un avantage certain par rapport à, mettons, 1920, au développement des premiers ordinateurs, où il n'y avait pas d'informatique. Là, on part avec presque une centaine d'années de développement théorique en informatique. Et donc, on peut mettre tout ce bagage au service, en amont, avant le développement de machines physiques, de langage, de structures de spécification, de vérification, d'optimisation, de compilation, pour que lorsque les physiciens nous amènent un ordinateur, on soit au taquet, prêt à l'utiliser au mieux de ses ressources, essentiellement.
C'est ça. Donc tout le monde se prépare et déjà sur les starting blocks, parce que c'est un vieux rêve, hein, Antoine Broway, cette machine quantique, qui pourrait, donc on le comprend bien, ridiculiser vraiment les performances de nos ordinateurs actuels. Hein.
Oui, oui, ça, enfin c'est ce qu'on espère. Ouais. En fait, c'est un vieux rêve et c'est intéressant de poser la question en ces termes parce que c'est en fait l'espèce d'aboutissement d'énormément de travaux, de recherche expérimentale dans les laboratoires.
Qui ont commencé quand, à peu alors, près, les tout débuts.
Alors, là aussi, il faut distinguer plusieurs périodes. Il y a eu la période qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a mis au point quasiment toutes les techniques expérimentales qui sont utilisées aujourd'hui. Donner un exemple, il y a les ondes micro-ondes, celles qui nous servent à envoyer l'émission radio là aujourd'hui, et il y a également le laser qui est apparu un petit peu plus tard. Et à l'époque, c'était utilisé pour aller sonder les propriétés ultimes de la matière. On envoyait ces ondes, donc c'est un des développements qui ont été faits dans les années 50, 60. Et simplement, ces mesures étaient toujours faites sur des très grands nombres d'atomes à la fois. Donc, par exemple, prenez un gaz, il contient des milliards et des milliards de particules. Vous envoyez votre laser et vous avez une réponse moyenne de toutes ces particules du gaz. Vous n'avez pas accès à un seul de ces atomes. Et puis en parallèle de ça, il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer d'isoler un seul de ces atomes.
C'est ça.
Travaux complètement disjoints. Qui
là,
sont
on est quoi dans les années 70
Là, on est
plutôt
dans les années 70 ouais. à 80. Et donc là, il y a quelques grands noms, dont un nom français qui est Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel de physique, qui a donc des travaux de personnes qui ont essayé d'isoler une seule particule. À l'époque, l'idée était de pouvoir l'isoler pour pouvoir faire une mesure des propriétés de cette particule sans être polluée, entre guillemets, ou influencée par les autres particules qui les entourent.
Ouais. Donc ça, c'est piéger un atome.
Donc ça, c'est piéger
avoir
un
seul atome.
Alors ça a démarré avec un électron. Puis ensuite un ion, parce qu'ils portent une charge électrique, donc ils sont plus faciles à manipuler avec des ions et avec des champs électriques. Mmh. Et puis au début des années 2000, on a commencé à pouvoir isoler un et un seul atome. Et ça, donc, ça a été fait à l'Institut d'Optique par Philippe Grangier pour la première fois. Mmh. Et puis bon, maintenant, il y a très nombreux groupes dans le monde qui font ça. Donc ça, c'est les développements expérimentaux qui ont permis d'aboutir au fait que maintenant, il y avait un vrai système sur lequel on allait pouvoir coder l'information. Alors, il y a d'autres systèmes qui sont apparus depuis, on en reparlera peut-être, les circuits électriques, les circuits supraconducteurs. Et très important, il y a aussi eu en parallèle des avancées conceptuelles. Alors, il y a un grand nom qui est associé à ça, c'est le nom de Richard Feynman, qui a été le premier à anticiper la puissance de ce que pourrait avoir un ordinateur quantique en disant on ne peut pas réaliser un calcul sur nos ordinateurs des propriétés d'un très grand nombre de particules. On sait parfaitement écrire les équations, mais on est simplement incapable, parce que le système qu'il faudrait coder sur ordinateur est trop gros, incapable de calculer ses propriétés. Et il y a un deuxième aspect, on en reparlera probablement avec Pascal tout à l'heure, qui est lié à l'existence de corrélations quantiques, ce qu'on appelle l'intrication. Et là aussi, il y a des physiciens français, en particulier Alain Aspect, qui ont fait des tests tout à fait essentiels qui validaient l'existence de ces corrélations quantiques très fortes, qui sont une propriété utilisée dans tous les algorithmes quantiques, autant qu'on puisse le dire actuellement.
Donc ce que vous nous expliquez au travers de cet historique, c'est que toutes les bases là sont jetées pour pouvoir être capable de fabriquer un ordinateur quantique.
Donc c'est l'exemple du fait que cette idée ne sort pas de nulle part, elle est juste l'aboutissement d'un très grand nombre de travaux. Et je voudrais rajouter un développement technologique qui est aussi un petit peu important, qui est complètement industriel, si vous voulez, ça a été le développement des puces logiques qui sont utilisées dans les ordinateurs. Et il y a une célèbre loi qu'on appelle la loi de Moore qui dit qu'en gros, tous les deux ans, vous doublez la densité de puces sur...
Qu'on l'a dit récemment que c'était peut-être terminé.
Exactement. Et alors, en gros, on est arrivé au bout. C'est-à-dire que là, actuellement, la taille des plus petits transistors ou portes logiques, c'est une dizaine de nanomètres. Ça comporte une centaine d'atomes. Et là, l'idée, c'est de se dire... On sait que quand on a un seul atome, les lois de l'électricité, les lois qui gouvernent le comportement de nos portes logiques, ne vont plus être valables. C'est gouverné par la physique quantique, et donc l'idée, c'est peut-on retourner l'argument, et plutôt que de voir ça comme une limite, voir ça comme une force, se demander comment est-ce qu'on peut utiliser l'information quantique, qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus.
Pascal Sénelard, il manque rien, hein, au fond.
Il manque quand même, je dirais, un volet plus sur la partie matériaux, les développements, t'as fait l'historique sur la partie laser, micro-ondes, etc. Il y a eu en parallèle, dans les années aussi 80-90, le développement des matériaux semi-conducteurs, qui sont à l'origine de toute l'optoélectronique, qui ont permis de créer des objets quantiques artificiels qui sont déjà dans vos ordinateurs, dans vos lecteurs DVD, etc. Ils sont déjà là. Donc les systèmes ne fonctionnent pas grâce aux lois de la mécanique quantique au sens dont on parle aujourd'hui, Mais il y a déjà des objets quantiques qui ont été introduits et qui sont déjà dans nos technologies. Donc je dirais qu'il y a aussi en parallèle ces développements technologiques.
Il y a une question de Louis d'ailleurs, il demande si l'ordinateur quantique requiert pour fonctionner une mémoire vive et un disque dur à la hauteur de sa capacité de calcul ou est-ce qu'il se contente d'une mémoire comparable à celle disponible pour les supercalculateurs actuels ?
Alors, je pense qu'il y a... En fait, je vais essayer de répondre. C'est une question très compliquée, mais je vais essayer de répondre. En fait, dans les protocoles pour coder l'information, transmettre l'information, etc., on est encore en train de réfléchir à ces choses-là. Et en fait, la durée de la mémoire, la capacité de la mémoire nécessaire pour calculer et réaliser un calcul quantique sophistiqué, c'est quelque chose qui évolue encore. Du côté de ceux qui essayent de fabriquer les composants, on entend ce qu'on nous demande. On dit, il faudrait telle capacité, etc. Et cette capacité évolue tous les jours. Donc, d'un point de vue conceptuel aussi, les idées changent. Mm-hmm. Et donc, ce dont on aura besoin n'est pas encore clair.
On est encore en flop, là, ou pas, dans ce domaine? Parce qu'on parle des pétaflops et bien d'autres encore.
Je ne sais même pas si on parlerait...
Ou est-ce que là, il faut carrément inventer d'autres unités?
Je pense que c'est plus la bonne unité.
Oui, c'est ça, la taille des... Enfin, la quantification de l'énergie ou de l'information, c'est-à-dire au sens quel nombre associé à ça devient...
C'est sur le nombre de calculs à la seconde.
C'est sur le nombre de calculs à la... Oui, enfin, c'est ça, et c'est aussi sur la taille de l'information à manipuler, de la système.
Oui. Autre question, autre fait d'ailleurs d'actualité, Christophe nous rappelle qu'en 2011, on mettait en avant le D-Wave avec 100 millions de fois, enfin en tout cas une machine qui allait 100 millions de fois plus vite que les ordinateurs classiques actuels et qui aurait été justement le signe que l'ordinateur quantique était déjà une réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Valiron? Est-ce que c'est vraiment le début de cette machine ou pas? Il y a un peu de mystère autour de D-Wave justement.
Alors c'est très mystérieux parce que comme c'est une entreprise, ils ont un très bon service de com, parce que c'est ce qui fait qu'ils sont susceptibles de gagner de l'argent. Ouais. Mais ils ont aussi des physiciens derrière et donc c'est pas uniquement des charlatans qui disent on a quelque chose. De fait, ils ont une grosse machine qui semble faire quelque chose.
Ouais. Alors qu'ils ont vendu très cher d'ailleurs. C'était 10 millions de dollars l'ordinateur.
Hein. Exactement. Et ils ont quelques clients essentiellement.
Dont Google, je crois.
Alors Google,
Lockheed Martin, on a acheté.
Donc un certain nombre. Donc essentiellement des clients qui sont suffisamment riches pour se permettre d'acheter un joujou et voir si effectivement il y a quelque chose derrière. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est il y a une grosse machine, finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le plus simple c'est de l'avoir dans son salon.
Ça prend un peu de place quand même, c'est un gros coffre-fort.
Oui mais ils ont de la place, ils ont de la place.
C'est vrai que chez Google on a des grands salons.
Si vous comparez ça à des ordinateurs super puissants, les super calculateurs, c'est à peu près le même genre de taille.
C'est pour donner une idée à peu près.
Par contre il y a un peu plus que 512 bits dans un super calculateur.
Tout à fait.
Pascal Sénelard, alors D-Wave, c'est le premier ordinateur quantique ou pas alors?
Alors je pense que la question est encore ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement sûr. Je pense que pendant quelques années, ils n'étaient pas très ouverts à l'idée qu'on puisse vérifier ou pas. Maintenant, ils commencent à laisser les physiciens mettre leur nez dedans. Et la réponse n'est pas encore claire. À quel point le fonctionnement est basé sur ces principes de la physique quantique, ce n'est pas encore complètement clair.
Allez, on se retrouve dans un instant pour savoir comment fonctionnent véritablement ces ordinateurs quantiques. Et puis beaucoup de messages pour vous sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr, pour nous retrouver cet après-midi.
Resume my round now. Way down below, these feet are crying. And this horny goat just keeps on whining. Well, I fear I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds. Now, Dr. Fields back in town.
Doctors In avec Son Little.
The human brain was evolved.
Le cerveau humain a mis plusieurs millions d'années à accepter le monde classique. Mais il n'a pas eu l'occasion de se former à ces concepts. Et ce ne sera pas le cas non plus dans un avenir proche. Notre cerveau ne peut pas évoluer aussi vite. Nous ne pouvons qu'accepter les conclusions de la science moderne. Tout cela existe.
Et du fait précisément de cette existence, les scientifiques essaieront sans relâche de concrétiser l'ordinateur quantique dans notre monde réel. Dans 10 ans, peut-être, le premier sera prêt à exécuter une application. Il nous faudra alors abandonner notre vision analytique du monde. Car l'époque des lois de cause à effet sera révolue.
Voilà, extrait d'un documentaire sur l'ordinateur quantique. C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi. Pascal Sénard, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
Oui, le commentaire sur le fait que le cerveau n'est pas complètement équipé pour comprendre toutes les implications de la physique quantique. Je pense que c'est vrai que tous les invités ici accepteront l'idée que c'est complexe.
On finit par s'y habituer à force de manipuler les concepts, mais ce n'est pas une vraie compréhension dans les tripes. Si
en fait,
je crois que c'est vrai pour à peu près tout physicien auquel vous allez parler. Il va vous dire...
Oui, il y a des gens qui disent que quelqu'un qui vous dirait qu'il a vraiment compris la physique quantique, c'est quelqu'un qui ment un peu.
Bon, Benoît Valiron, du point de vue de l'informaticien.
Alors, du point de vue de l'informaticien, l'avantage, c'est qu'on peut mettre, l'ordinateur quantique dans une boîte bien fermée avec un joli sigle dessus et le brancher sur un ordinateur classique.
Ah oui.
Et là-dessus, on commence à travailler.
Et ça peut fonctionner ?
Ah ben, ça fonctionne très bien.
C'est compatible ?
C'est complètement compatible. On a déjà la boîte. On attend juste l'ordinateur.
Ah ben voilà, c'est ça qu'il faut mettre dedans. Oui. Alors justement, Jean-Baptiste demande, il aimerait connaître quelques exemples d'algorithmes très longs ou impossibles à être traités par l'ordinateur classique qu'on pourrait réaliser à l'aide d'un ordinateur quantique, ce qui va nous permettre de bien comprendre la différence au fond entre nos vieilles machines qu'on utilise et les promesses du futur.
Il y en a essentiellement deux à l'heure actuelle. Ce sont des algorithmes. Donc, ils ont été introduits dans les années 90, en 1994, Shor, et en 1997, Grover. Le premier, c'est un algorithme de factorisation. C'est-à-dire que vous prenez un nombre et vous le factorisez en produit de facteurs premiers. Donc, ça, c'est un algorithme.
Tout le monde suit là.
Je vous donne un exemple. Donc,
merci.
15, c'est 5 fois 3. Voilà. Donc, par exemple, si vous codez encore une fois, un certain nombre de protocoles de sécurité sont basés sur la difficulté de réaliser cette factorisation dans le cas des très grands nombres. Par exemple, si vous prenez un nombre de 400 chiffres, on estime qu'il faut 10 milliards d'années à partir des algorithmes que l'on connaît pour trouver tous ces produits de facteurs premiers.
Ah oui, c'est long.
Donc c'est long. Un ordinateur quantique, si on l'avait, ça prendrait 3 ans, basé sur l'algorithme de Shor.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, alors le plus gros qu'on ait réalisé au laboratoire, c'est 143 qu'on a factorisé et qui est 13 fois 11.
Donc c'est la rapidité de calcul déjà.
C'est
qui distingue très
l'efficacité du calcul, qui conduit à la rapidité de calcul.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier type d'algorithme. Et le deuxième, c'est un algorithme de recherche dans des listes qu'on appelle l'algorithme donc de Grover. Voilà. Donc ça, c'est aussi rechercher dans une liste. Si vous voulez, un ordinateur classique, il doit rechercher toutes les entrées de la liste. Un ordinateur quantique ferait ça en parallèle, on en discutera probablement tout à l'heure, et par conséquent ce serait plus efficace, et on gagnerait, donc là ça va devenir technique, comme la racine carrée du nombre d'éléments à chercher dans la liste. Donc si vous en avez 9, ça irait 3 fois plus vite avec un ordinateur quantique.
Pascal Selnard, qu'est-ce qu'il faut alors comme ingrédient pour vraiment fabriquer cet ordinateur quantique? Et évidemment, je fais appel à vos travaux,
hein,
qui contribuent directement à l'élaboration d'une telle machine.
Alors, ce que Antoine vient d'esquisser, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire des choses en parallèle avec un ordinateur quantique. L'idée, c'est que dans un ordinateur quantique, dans un ordinateur classique, vous avez votre bit d'information élémentaire qui va valoir soit 0, soit 1.
C'est quoi le bit, rapidement?
Le bit, c'est le grain d'information qu'on va manipuler. C'est le petit transistor, c'est l'interrupteur dans votre ordinateur classique. D'accord? On appelle ça un bit d'information. En quantique, on appelle ça un bit quantique. Dans un ordinateur classique, ce bit va prendre la valeur 0 ou 1, ou on-off, ou comme l'a fait introduit Schrödinger avec son chat, mort-vivant.
C'est ça, l'un ou l'autre.
L'un ou l'autre. En physique quantique, le système va pouvoir prendre les deux valeurs en même temps. Mm-hmm. Quand on dit prendre les deux valeurs en même temps, c'est il va être à la fois l'un et l'autre, dans n'importe quel degré, c'est-à-dire qu'il va être, si je prends l'exemple de éteint allumé, on-off, il peut être un petit peu éteint, beaucoup allumé, ou un petit peu allumé, beaucoup éteint, et dans n'importe quel degré. Et donc, en fait, cette propriété très particulière...
C'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique, en fait, qui est...
Voilà. Alors, en fait, comment on voit que ça devient parallèle? J'aurais envie de prendre l'image de... Si quelqu'un cherche à sortir d'un labyrinthe, vous mettez un humain au milieu d'un labyrinthe, il essaye de sortir, il va devoir essayer tous les chemins, puis il va prendre un petit carnet, puis il va rayer tous les chemins qu'il a essayés, puis il va garder la trace de tous les chemins, d'accord? Dans un ordinateur quantique, comme on va pouvoir superposer les différents chemins possibles...
Il va pouvoir tous les tester en même temps?
Il va pouvoir tous les tester en même temps, il va tout explorer en même temps, il va trouver du coup la sortie beaucoup plus rapidement. À la sortie, quand il sera sorti, il dira « je suis sorti », donc il vous dira « ben voilà, j'ai trouvé la solution ». Donc l'ordinateur quantique pourra faire ça de manière beaucoup plus efficace, de manière très puissante. Par contre, il ne sera pas capable de vous dire comment il a fait, il ne pourra pas retracer le chemin qu'il a suivi. Donc il y a cette espèce de parallélisme qui vient vraiment de cette superposition qu'on appelle la superposition cohérente des deux états.
C'est ça un ordinateur quantique?
Quand vous m'avez demandé tout à l'heure quelle est la difficulté, eh bien, c'est précisément de la conserver, cette superposition cohérente. Quand vous en avez un, donc Pascal a des systèmes comme ça au laboratoire, on en a notre laboratoire, on arrive à garder cette information pour les meilleurs laboratoires une seconde. Mais quand vous faites grossir la taille du système, cette superposition, elle s'effondre comme le nombre de particules que vous mettez dedans. Donc
alors,
du coup, très rapidement, ça devient très fragile et vous perdez la puissance de ces corrélations.
Thibault demande justement dans ce message, dans le cas des sources lumineuses, comment est-ce qu'on arrive à produire des photons identiques? Donc,
identiques ou imparables? Je réponds aux deux questions.
C'est identique.
Identique, ça veut dire... Alors, le photon, c'est le grain de lumière. La lumière de tous les jours qui est autour de vous, le néon, il émet les photons par paquet. Si vous étiez capable de zoomer, vous verriez qu'il émet les photons par paquet. Le laser, cette révolution qui a fait tous les progrès qu'on connaît, émet les photons de manière aléatoire. Des fois 2, des fois 1, des fois 3, des fois 0. Le photon dont on parle ici, c'est le photon émis un par un. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le grain de lumière élémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous identiques? Ça veut dire qu'ils ont exactement la même couleur, exactement la même forme spatiale. Il a une certaine taille spatiale, une certaine forme temporelle. En gros, c'est ça.
Mais c'est-à-dire qu'on les confond? On ne peut plus les distinguer?
Exactement. L'intérêt, c'est qu'ils deviennent... On ne sait plus les distinguer. Ouais. Et donc, quand vous en avez deux, c'est comme si vous en aviez deux fois un. Ce n'est plus vraiment deux unités discernables. Ouais. On dit qu'ils sont indiscernables. Et c'est ce qui fait qu'ils deviennent des objets éminemment quantiques.
Et dans votre laboratoire, vous avez réussi une prouesse quand même, Pascal Selnard, il faut le dire.
Bon, alors on arrive maintenant... un des enjeux de l'ordinateur... d'utiliser la lumière pour faire un ordinateur quantique, c'est justement de générer ces photons un par un et tous identiques.
Donc de façon indiscernable.
Voilà. Alors pourquoi on veut qu'ils soient indiscernables? C'est parce que quand ils sont indiscernables, en fait, ils vont se comporter de manière extrêmement non classique. Donc si je peux prendre une image, vous imaginez que vous envoyez deux photons qui arriveraient à un carrefour autoroutier.
Oui.
D'accord, vous avez deux entrées et deux sorties pour le carrefour. Vous mettez un photon dans chaque entrée, pardon.
C'est des photons dans le micro.
Ça
fait beaucoup de bruit.
Et donc, dans un système classique, chaque photon va pouvoir sortir par l'une ou l'autre des sorties. Dans la physique quantique, si ces photons sont en fait complètement indiscernables, ils vont forcément sortir ensemble, soit d'un côté, soit de l'autre. Et en fait, ils vont sortir ensemble des deux côtés en même temps, mais toujours ensemble.
Ouais. Et pour obtenir ces photons identiques, alors vous êtes servi de quoi exactement?
Alors, nous, on utilise justement ce que je mentionnais tout à l'heure, les techniques de l'optoélectronique. Antoine, tout à l'heure, a rappelé comment on a été... progressivement arrivé au point où on était capable d'isoler un atome unique, ça reste quand même une prouesse expérimentale très complexe. De l'autre côté, du côté des matériaux, on a pu réaliser des systèmes artificiels en faisant croître des matériaux semi-conducteurs, les mêmes qui sont dans les lasers, ouais. Semi-conducteurs. Et on peut faire en fait quelque chose qui ressemble à un atome, qui en fait est constitué de 10 000 atomes, mais qui se comporte comme un seul.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui génère des photons uniques en général ? C'est un atome unique. Donc autrefois, ça a d'abord été fait par un vrai atome unique piégé. Et maintenant, on est capable de faire la même chose avec un atome artificiel.
Et ça, Antoine Brouet, s'il faut le dire, c'est une prouesse qui permet aussi d'arriver de plein pied dans la fabrication des ordinateurs quantiques. Hein.
Ces travaux ce serait de Pascal Sénard et de son équipe. Ça, certainement. D'avoir des sources de photons uniques extrêmement brillantes, ça a plusieurs intérêts. C'est pour l'ordinateur quantique, mais aussi de façon plus générale, les gens envisagent déjà des réseaux de communication quantique. Donc, il faudra envoyer de l'information d'un point à un autre, de la même manière que vous envoyez l'information classique sur Internet. Donc, on aurait un peu l'équivalent. Et pour ça, on a besoin d'avoir ce médiateur de l'information et on code cette information quantique sur le photon. Donc, avoir des sources de photons brillantes, c'est essentiel parce que c'est ce qui permettra d'atteindre des flux importants.
Allez, dans un instant, on va être très concret aussi avec les applications possibles et les promesses de ces ordinateurs quantiques et puis les réponses aux messages des auditeurs. Juste après, Barbara, si la photo est bonne.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
L'ordinateur quantique avec mes invités Pascal Sénard, Antoine Brouweis et Benoît Valiron. Il y a beaucoup de questions des auditeurs. Cette question de François, pourquoi investir 10 millions de dollars dans un ordinateur quantique, Benoît Valiron ?
Eh bien, peut-être pour la magie de l'objet.
Oui, mais sûrement, c'est une magie qui coûte cher quand même. Hein.
Mais surtout pour ses capacités. Donc, de fait, l'ordinateur qui a été acheté par Google et par un certain nombre d'autres institutions n'est pas un ordinateur universel, en ce sens que ce n'est pas un ordinateur qui permettrait de faire n'importe quel algorithme quantique. C'est une machine spécialisée pour répondre à des problèmes d'optimisation. Mmh. Alors vous allez me dire à quoi ça sert des problèmes d'optimisation. Il y a quelque chose de très utile à l'heure actuelle, et Google est un bon exemple avec AlphaGo. avec le résultat avec AlphaGo.
Donc c'est la fameuse histoire du jeu de Go, hein, ce joueur de Séoul contre la machine.
Tout à fait. Donc pour l'intelligence artificielle, et en particulier pour les réseaux de neurones artificiels, il peut être, de fait, ce type, la programmation en quelque sorte d'un réseau de neurones artificiels peut être vue d'une certaine façon comme un problème d'optimisation. Et donc Google est probablement intéressé à regarder dans quelle mesure donc cette grosse boîte à 10 millions de dollars peut être utilisée pour programmer ses réseaux de neurones de façon plus rapide.
Mais si ce joueur coréen justement avait eu en face de lui un ordinateur quantique, il aurait été absolument impossible qu'il gagne aucune partie.
Alors, oui et non, parce que l'ordinateur quantique est aussi intelligent ou aussi bête que celui qui l'a programmé, en quelque sorte. Ça dépend de ce qu'on lui fait faire. Donc c'est... Il est possible de faire plus de choses à un ordinateur quantique qu'à un ordinateur classique, mais d'abord, ce n'est pas complètement certain. Et ensuite, il faut savoir comment le faire.
Antoine Brouwer.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur cette controverse d'E-Wave. Donc, pourquoi dépenser 10 millions d'euros ? En fait, ça fait une petite vingtaine d'années que les physiciens, les ingénieurs, les algorithmiciens nous disent quand on aura un ordinateur quantique, il y a des tas de choses qu'on saura faire, qu'on ne peut pas faire actuellement. Et là, vous avez une société qui vous présente un ordinateur soi-disant quantique, et on n'arrive pas à décider si vraiment il fait une tâche quantique, si vraiment la physique quantique est nécessaire. Donc je pense que de cette controverse va forcément naître la redéfinition, on est obligé de pousser plus que veut dire l'information quantique. Donc du point de vue de la genèse et de la fabrication d'un ordinateur quantique, c'est en fait, ça vaut vraiment les 10 millions de dollars, parce que ça nous reforce à réfléchir vraiment à ce qu'on avait promis toutes les communautés de physiciens qui travaillent là-dessus depuis 20 ans.
Ludovic nous dit, est-ce qu'un ordinateur quantique nous apprendra des choses sur la matière ou la physique quantique de par son comportement, par exemple ? Pascal Selnard.
Alors ça c'est... En fait, la question nous emmène sur le terrain qui est un peu plus spécialisé que l'ordinateur quantique, qui est peut-être celui de la simulation quantique.
Ah ben justement, une question de Sylvain, la différence entre simulateur et ordinateur quantique.
Voilà, donc puisqu'on a encore du mal à faire un ordinateur quantique efficace avec beaucoup de bits d'informations élémentaires, etc., on est en train, et donc l'équipe d'Antoine est peut-être mieux à même que moi d'en parler, d'essayer de faire, au lieu de calculer, de simuler. Au lieu d'essayer d'entrer les équations et demander à l'ordinateur de faire les calculs qui vont bien pour décrire la matière, parce qu'effectivement la matière c'est typiquement les systèmes qu'on a du mal à décrire, parce que quand vous avez trop d'atomes, vous ne savez plus. Eh bien, au lieu de faire vraiment des calculs, ce qu'on commence à réaliser, c'est que avec des systèmes quantiques, on va pouvoir simuler. Et au lieu de calculer, on va faire créer des expériences qui ressemblent, mais sur lesquelles on a un contrôle parfait, ce qui va nous permettre, avec les propriétés quantiques, de comprendre des choses, effectivement, qui est, par exemple, les propriétés de la matière, etc., qu'on ne peut pas calculer avec un ordinateur classique.
Il y avait un deuxième aspect à la question, c'était qu'est-ce qu'on va apprendre sur la physique quantique ? Ben, en fait, on risque d'apprendre, ou de ne pas apprendre, que la physique quantique est peut-être une théorie limitée. C'est-à-dire que
cet
ordinateur quantique,
qui
est basé sur le principe de superposition, personne aujourd'hui n'est capable de vous dire s'il est vrai à notre échelle, puisqu'on n'observe jamais. C'est le fameux paradoxe que ceux qui ont déjà lu un peu de physique quantique connaissent, qui est le paradoxe du chat Schrödinger. C'est le chat peut être mort ou vivant, simplement cette superposition, vous ne l'avez jamais vue avec un chat, alors que nous, on la voit avec nos atomes.
Benoît Valiron, est-ce que le langage utilisé pour les ordinateurs quantiques sera complètement nouveau par rapport à celui qui est utilisé aujourd'hui ?
Alors, non. A priori, disons, les premiers langages qui sont développés à l'heure actuelle sont développés basés sur les algorithmes existants, donc essentiellement des algorithmes développés soit par des physiciens, soit par des mathématiciens pour des études de complexité, pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'un ordinateur quantique peut être plus rapide qu'un ordinateur, un algorithme quantique peut être plus rapide pour une tâche donnée qu'un algorithme classique. Donc ces algorithmes sont donc décrits sur le papier sous forme de formules mathématiques, de circuits ou de choses variées. Et donc l'objectif est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut formaliser tout ça en développant un langage. Et de fait, le langage est développé sur un ordinateur normal, puisque c'est quand même ce qui est le plus simple, d'utiliser un logiciel, un environnement de développement normal. Et en fait, les algorithmes quantiques, c'est d'abord et beaucoup de classiques. D'abord, on récupère des informations classiques, puisque l'objectif, c'est de résoudre un problème classique. Donc, vous avez des données classiques en entrée, par exemple, le nombre que vous voulez factoriser. Il y a beaucoup de processing classique avant toute chose. L'algorithme quantique, il va s'appliquer dans un cas très particulier. Donc, d'abord, il y a beaucoup de cas à éliminer. Donc, tous ces cas-là, on va les éliminer avec un ordinateur classique, du processing classique. Ensuite, il va falloir générer la suite d'instructions élémentaires envoyées à l'ordinateur quantique. Et donc là, faut les générer, donc c'est encore du classique. La quantité d'instructions à envoyer dépend de la taille d'entrée. Et puis une fois qu'on a récupéré des informations, on a récupéré un flot de données de l'ordinateur quantique, et là, il faut les traiter. Et là, on les traite de façon classique.
Bon, donc il y a en fait c'est beaucoup... un peu décevant. Mais...
Donc en fait,
c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Alors,
exactement.
Finalement,
donc en fait, il y a énormément de classiques.
Oui, on l'a bien compris.
Par contre, il y a la toute petite phase du milieu qui est la phase critique, qui est est très intéressante et nécessite des développements de techniques spécifiques, mais qui s'intègrent au sein d'un ensemble plus vaste et plus classique. Vous avez un besoin de mélanger les deux. Vous avez besoin d'avoir les objets classiques normaux, des entiers, des listes, des ondes flottantes, etc. Et vous avez aussi besoin d'avoir des qubits. Et ce qui pose des questions intéressantes, puisque les qubits ne sont pas duplicables et que les objets classiques le sont.
Eh bien, nous en parlerons une autre fois, parce que là, en 20 secondes, ça va être compliqué d'aborder ce domaine crucial. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Nous sommes sur la route, sur la voie de l'ordinateur quantique, ça c'est évident.
On n'en a jamais été aussi proche, ça c'est sûr.
Absolument. Et ce sera pour très bientôt, certainement. Merci Pascal Celnard, Antoine Broweis et Benoît Valliron. J'invite les auditeurs aussi qui sont intéressés par le sujet à consulter le numéro de Science et Vie du mois de mars, qui justement faisait sa une sur l'ordinateur quantique. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Aujourd'hui, comme tous les mardis, mais aujourd'hui en particulier, vous nous emmenez faire un tour dans les recoins méconnus de la vision.
Oui, vous ne l'imaginiez sans doute pas Mathieu, mais on peut faire de la science avec un cône de chantier, un mètre, un pèse-personne et des paquets de chips. On est loin de l'ordinateur quantique. C'est en tout cas l'ambition qu'a eue une équipe américaine à l'occasion d'une étude qui vient d'être publiée. Ces chercheurs s'intéressent à un phénomène curieux et peu connu, le fait que les capacités physiques des humains peuvent modifier la perception visuelle qu'ils ont de leur environnement. On a ainsi montré par l'expérience qu'un bon tireur à l'arc voit la cible plus grosse qu'un mauvais archer, ou que pour un champion de tennis, la balle avance plus lentement que pour un nul de la raquette. Les auteurs de cette étude se sont demandé si d'autres caractéristiques physiques jouaient sur ces illusions d'optique. Et ils se sont basés sur une expérience antérieure qui montrait que les personnes portant des sacs à dos bien remplis surévaluaient les distances. Et ils se sont dit, est-ce que l'embonpoint des personnes corpulentes, qui est une sorte de sac à dos intégré, a le même effet ? Pour le déterminer, le plus simple était d'aller au supermarché pour recruter du ventru, du maflu, du joufflu. Une soixantaine de kidam ont été enrôlés dans l'étude, un tiers doté d'un indice de masse corporelle normal, un tiers étant en surpoids, comme on dit, pour ne pas vexer les grassouillets, et le dernier tiers appartenant à la catégorie des obèses.
Et comment on a procédé pour cette expérience exactement ?
Donc on a mené ces participants sur une allée piétonne rectiligne et ils devaient estimer la distance qu'ils séparaient d'un cône de chantier placé à différents points plus ou moins proches, 10, 15, 20, 25 mètres, le tout dans un ordre aléatoire. Le mètre et la balance dont j'ai parlé au début servaient à peser et à mesurer les cobayes pour calculer leur indice de masse corporelle. Résultat, plus ils totalisaient de kilogrammes sur cette balance, plus ils exagéraient la distance qui les séparait du plot. Et plus ce plot était éloigné, plus ils se trompaient. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est comme s'ils avaient évalué les distances non pas spatialement, mais en fonction de l'effort à produire pour les parcourir. Et comme s'ils avaient ajouté à cet effort virtuel un surplus de fatigue potentielle. Pour les auteurs de l'étude, ce résultat pourrait conduire à revoir certaines idées couramment émises sur les personnes massives, à qui on reproche notamment de trop prendre la voiture pour de courtes distances. Mais si on considère que les mastards et les ventripotents estiment mal les distances en question, leur choix devient tout à coup compréhensible, voire rationnel.
Et l'histoire du paquet de chips dans tout ça, j'ai pas compris là.
Eh bravo Mathieu, je vois qu'il y en a au moins qui suit dans le studio. Eh bien, j'ai le regret de dire que les paquets de chips en question ont été distribués aux participants minces ou obèses en remerciement de leur collaboration.
C'était une bonne idée, effectivement. On trouve votre chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Pierre, qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu du supplément ?
Et cette semaine, le dossier est consacré aux nouveaux vulgarisateurs que sont les youtubeurs scientifiques.
Voilà, c'est donc aujourd'hui en kiosque. Merci beaucoup, à mardi prochain Pierre Barthélémy pour votre science improbable.